affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être fidèles à l'écoute de Canal Académie. Dans notre émission de ce jour, nous allons sacrifier à l'impérieuse nécessité de célébrer le 100e anniversaire de la guerre de 14-18. Mais nous allons le faire en nous appuyant sur un document historique. Rassurez-vous toutefois, cette émission n'en sera pas pour autant austère, loin de là. En effet, le document historique dont il s'agit est une bande dessinée. Il s'agit de l'album « Les pieds nickelés s'en vont en guerre », initialement paru en feuilleton, à compter de 1915, et opportunément réédité voici quelques semaines aux éditions Vuibert. Pour évoquer cet album, pour le situer dans son contexte, pour en saisir tout le sel, mais aussi pour relater les frasques de ces fameux pieds nickelés, nous avons l'immense joie de recevoir dans nos studios l'académicien Jean Tullard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, historien bien connu, spécialiste de Napoléon, mais aussi, c'est de plus en plus connu, grand amateur de culture populaire et de bande dessinée, et qui a, à ce titre d'ailleurs, signé la préface de cet album. Jean Tullard, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour que nos éditeurs saisissent tout le sel de ce recueil un petit peu incongru des pieds nickelés, peut-être faut-il d'abord présenter ses protagonistes, à savoir les fameux pieds nickelés, si je ne me trompe pas, Croquignol, Ribouledingue et Filochard. En effet, pour ceux qui les connaissent, ces trois personnages n'ont pas précisément le profil des amateurs de clairons et d'uniformes.
Oui, les pieds nickelés apparaissent en effet en juin 1908, dans un journal pour enfants, Les Patents. Et ce jour-là, sur la couverture, on voit trois têtes inquiétantes, celle de Ribouledingue, un barbu vraiment assez échevelé, Filochard, qui est borgne, et Croquignol, qui a un très long nez. Ils sont monstrueusement laids, le dessin n'est pas soigné, et ça s'annonce comme la bande des pieds nickelés. Alors on s'est d'abord interrogé pour savoir ce que voulait dire le terme « pieds nickelés ».
J'allais vous poser la question.
C'est bien, pieds nickelés, ça vient de nickel, du nickel, c'est-à-dire que les pieds nickelés ont des pieds en nickel qui les empêchent de se déplacer pour aller au travail.
Ce sont des traînes savates en quelque
sorte.
Voilà,
des traînes savates, mais qui ne peuvent pas, parce que leurs pieds sont trop lourds, rejoindre leur lieu de travail. Donc, ils sont condamnés à être des escrocs, des voleurs, des bandits, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux. Ils ont les pieds nickelés. L'expression « pieds nickelés », d'ailleurs, n'est pas inventée pour eux, mais avait été formulée par Tristan Bernard, qui avait écrit une pièce « Les pieds nickelés ». Et c'est lorsque les éditeurs de L'Épatant ont cherché un titre à ces nouveaux bandits, ils ont pensé d'abord à pieds sales, c'était pas bon, à pieds noirs. Et puis quelqu'un leur a suggéré, un auteur de roman populaire leur a suggéré pieds nickelés. Mais les droits étaient pris par Tristan Bernard, qui aurait revendu pour 1000 francs les droits sur ce nom de pieds nickelés. Ça, c'est un peu la légende, nous n'avons pas de contrat, nous n'avons rien là-dessus. D'ailleurs, je dois dire que nous n'avons rien sur la création, sur les contrats de Forton des pieds nickelés, car la maison Offenstadt, qui publiait les patents, a vu tous ses papiers, toutes ses archives saisies au moment des lois raciales de Vichy, et donc on ne sait pas où c'est passé. Bref, il nous manque beaucoup d'éléments pour étudier cette création des pieds nickelés. En tout cas, ils apparaissent en juin 1908 dans un journal pour enfants, que des bandes dessinées, des récits, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que des bandes dessinées, il y avait des reportages, des essais. Et donc, tout à coup, c'est l'intrusion de ces bandits dans le domaine de la bande dessinée.
Et c'est un succès immédiat.
Alors, c'est évidemment un effet de surprise, et c'est un succès auprès des enfants, qui sont séduits par ces types qui ont des gueules pas possibles, ils sont vraiment laids, le dessin de Forton est franchement laid, et tout cela est tout à fait, nous allons y revenir, non conformiste. En effet, en lisant les pieds nickelés, les enfants qui lisaient les patents ou qui étaient abonnés à les patents découvrent tout ce qu'il faut faire pour ne pas payer dans un restaurant, pour ne pas payer un spectacle, bref, toutes les escroqueries possibles. Alors évidemment, les parents qui regardent les lectures de leurs enfants sont immédiatement horrifiés. Il y aura des confiscations de l'épatant, il y aura des numéros de l'épatant déchirés et il y aura à la porte des églises lecture déconseillée, les pieds nickelés.
Les pieds nickelés à l'index.
Les pieds nickelés, en effet, apportent un élément d'insubordination dans la bonne société des enfants qu'on abonnait. Il n'y avait pas beaucoup de journaux dans bande dessinée à l'époque. Il y avait les patents, il y avait la semaine de Suzette, il y avait eu l'intrépide. Mais bon, là, pour la première fois, ça tournait un peu de façon inquiétante. Alors, il faut bien comprendre que cette apparition des pieds nickelés, elle est quand même inséparable du contexte de l'époque. En effet, nous sommes en plein mouvement anarchiste. C'est l'époque de Ravachol. C'est l'époque de la bande à Bonneau, qui sont des voleurs qui utilisent la voiture pour monter des hold-up, des 400 coups. C'est, en littérature, l'apparition, en 1906, d'Arsène Lupin. Arsène Lupin qui apparaît dans « Je sais tout », et qui donc est le gentleman cambrioleur. Lui, il est beau, il est distingué par rapport aux pieds nickelés qui, eux, s'apparentent plutôt aux clochards. Mais c'est le même idéal, enfin, si on peut appeler ça un idéal, c'est le même programme, voler le riche. Et puis, en dehors de cela, il y a, en 1911, Fantômas. Alors Fantômas, c'est un peu différent. Fantômas, c'est le génie du crime, le maître de l'épouvante, etc., Marcel Lalin et Pierre Souvestre. Mais Fantômas, c'est quand même un homme cruel qui tue, alors que ni Arsène Lupin ni les pieds nickelés ne sont sanglants, sauf, comme nous allons le voir, pendant une très brève période de leur existence. Donc les pieds nickelés paraissent avec des noms très significatifs, puisqu'il y a croquignol, comme vous l'avez dit. Croquignol, ça veut dire moche, ça veut dire raté. Et effectivement, il est laid. Ribouledingue, c'est la fiesta, la fête, on fait la ribouledingue. D'ailleurs, il y a un restaurant à Paris qui s'appelle le Ribouledingue. Et puis, filochard, c'est celui qui, après son méfait, file en douce, le filochard. Ils ont donc des noms très caractéristiques. Et il y a toutefois un élément sur lequel les gens qui ont pu écrire sur les pieds nickelés n'ont pas insisté, et que je suis peut-être l'un des premiers à avoir fait remarquer, c'est que les pieds nickelés ne sont pas caractérisés sur le plan, s'ils sont sur le plan physique, mais sur le plan du caractère, sur les rapports entre les pieds nickelés ne sont pas définis. Ce sont trois entités qui se déplacent, les pieds nicklés, alors que quand vous parlez des trois mousquetaires, les trois mousquetaires, c'est Athos, c'est le sage, c'est, comme aurait dit Mézil, le laboureur, Porthos, c'est le guerrier, le colosse vaniteux, et Aramis, c'est la ruse, c'est l'Église. D'ailleurs, il finira général des Jésuites et intriguera pour devenir pape. Bref, les trois mousquetaires sont parfaitement caractérisés, ont leurs manies, leurs habitudes, leurs rapports sont aussi définis. Athos est plus près d'Aramis et D'Artagnan plus près de Porthos. Bref, là, dans les pieds nickelés, c'est une triade. Mais ils n'ont pas de caractéristiques. Alors, il y en a, ils se marient quelquefois, mais très peu. Ribouledingue commence à se marier, il épouse une noire qu'il a rencontrée en Afrique. Et alors, c'est là où c'est peut-être la faiblesse aujourd'hui des pieds nickelés, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que la noire, dans les pieds nickelés, s'appelle Blanche de Pastille. Ce qui est un jeu de mots qui aujourd'hui ne serait pas toléré, mais il faut voir, c'est un mot de l'almanach Vermeaux. Il n'y a dans les pieds nickelés, j'y insiste, aucun racisme. Au contraire, Forton était un homme très ouvert. Mais il y a des plaisanteries dans les pieds nickelés, des jeux de mots qui font que quelquefois, aujourd'hui, cela peut choquer si on ne les remet pas dans le contexte de l'époque.
C'est la gouaille de l'époque.
C'est la gouaille de l'époque. Ce n'est pas du tout du racisme. Ce n'est pas du tout du mépris. C'est simplement des jeux de mots que l'on ne résiste pas. Et donc, voilà, donc les pieds nickelés lancés dans les grandes escroqueries. Et alors, au début, ils sortent de prison. La rencontre entre les pieds nickelés se fait avant qu'ils ne forment une bande. Croquignol sort de prison. Il aperçoit un estaminet. C'est le propre des pieds nickelés. Là aussi, je vous ai dit, bon, on pouvait les soupçonner de racisme, on peut les soupçonner de picoler, comme on dit à l'époque, mais un peu trop.
À juste titre.
À juste titre, bon, du gros rouge, mais aussi du Clos Vougeot. Et quand ils vont dans les grands restaurants, bon, c'est pas du... C'est du grand Bordeaux.
Avant même d'être sous l'uniforme, oui, ils étaient foncièrement français. Ah, et parisien.
Et parisien, oui. C'est, d'ailleurs, c'est le langage de l'époque, c'est ce langage parisien, des titis parisiens que l'on retrouve l'argot de l'époque. Donc, les voilà, ils se retrouvent dans un estaminet, où d'ailleurs ils boivent un peu trop, se font arrêter, parce que pour tapage, et puis parce qu'ils tiennent des propos séditieux, ils sont arrêtés, mais qu'on se rassure, ils sortent immédiatement dès la fin de la planche, de la première planche de prison, parce qu'ils ont échangé leurs habits avec ceux de trois fêtards qui avaient été mis au violon pour ébriété également. Et donc, ils ressortent de prison, et là, ils vont se lancer dans une série d'escroqueries qui les conduira jusqu'au pouvoir politique. En effet, il faut... Avant même que nous arrivions à la période 1914, il ne faut pas oublier que les pieds nickelés font de la politique. D'escroquerie en escroquerie, ils en arrivent à ce, j'allais pas dire, ne faites pas dire ce que je veux pas dire, l'escroquerie politique. Mais ils forment chacun un parti. Alors Philochard, qui est borgne, c'est le parti radical socialiste. Croquignol, qui est croquignolé, c'est le parti royaliste. Et Riboulding, qui est barbu, c'est le parti socialiste, allusion à Jaurès. Et d'ailleurs, ils vont rencontrer tous ces personnages, Jaurès, Clémenceau, dans les bandes de l'Hépaton, ce qui vous montre qu'on était très insérés dans l'époque. Et donc, les jeunes gens qui lisaient les pieds nickelés découvraient toute la vie politique. Ils sont élus comme députés. Leur premier souci est de faire augmenter l'indemnité parlementaire. Puis, ils vont faire voter des lois qui apparaissent aujourd'hui, quand ils arrivent au gouvernement, très modernes. Ces lois, c'est, par exemple, de considérer que le vol, mon Dieu, il n'y a aucune raison d'arrêter les voleurs. Le vol, c'est un métier. Donc, il ne faut pas les mettre en prison. Mais c'est très moderne. On ne veut pas mettre un voleur en prison. Il a une justification sociale. Il a un métier. Donc, infini, plus de voleurs en prison. Mais, c'est la supériorité des pieds nickelés sur notre époque. Je vous rappelle qu'ils sont au gouvernement. Les voleurs pourront voler, mais à partir du moment où c'est devenu un métier, ils devront payer un impôt. Donc, et cet impôt représente 50% de leur butin qu'ils doivent verser aux pieds nickelés. Vous voyez donc que, tout en ayant des aspirations qui nous paraîtraient généreuses, les pieds nickelés continuent à être des escrocs. Puis alors, ils lèvent...
Oui, car ce ne sont pas des Robin des Bois, il faut bien
non,
préciser.
Non, alors, précisément, ce qu'il faut bien dire, c'est que Robin des Bois, vous avez employé le terme juste, Robin des Bois vole aux riches pour redistribuer aux pauvres. Les pieds nickelés, non, ça, il n'est pas question de redistribuer aux pauvres. On vole pour profiter ce qui est pris est pris. On ne redistribue pas la richesse.
On
la dépense. Et ça, ils savent la dépenser. Donc, vous voyez, avant que nous arrivions en 1914, il y a déjà une épopée des pieds nickelés où ils ont connu à peu près tous les métiers, enfin, soit en falsifiant leurs occupations, et ils ont fait déjà un grand nombre d'escroqueries. À mon sens, ce n'est pas la meilleure période des pieds nickelés, c'est ensuite que la maturité va arriver, que le dessin va devenir plus précis, mais voilà, les pieds nickelés sont en 1914 des escrocs, dans la lignée de la bande à Bonneau, le sang en moins, dans la lignée d'Arsène Lupin, ils volent pour leur propre profit. Et voilà que en 1914, c'est une tragédie qui éclate, c'est la guerre mondiale, et donc la France va entrer en guerre contre l'Allemagne.
Et là, au stupeur, les lecteurs de l'Hépaton découvrent dans le numéro 344, daté du 10 décembre 1914, l'annonce suivante. Nos trois sympathiques pieds nickelés, Riboulding, Philochard et Croquignol, ne connaissant que leur devoir de Français, se sont engagés dans l'armée des combattants, sans attendre leur ordre de mobilisation, et les Boches apprennent à leurs dépens ce que vaut un loustique parisien. Patience, amis lecteurs, bientôt vous rirez et applaudirez à la lecture de leurs exploits.
Voilà, vous voyez, il y a tout à coup...
au-delà de la mobilisation.
Oui, oui, il y a tout à coup un changement total dans les Pieds-Niclés. Ils deviennent patriotes et ils vont s'engager dans l'armée pour combattre le Boche. On ne dit pas le nazi à l'époque, il n'y en a pas, c'est le Boche. Et donc, pourquoi ce changement? D'abord, il y a l'environnement. Il faut bien comprendre, 1914, c'est la mobilisation générale, c'est un élan patriotique qui fait l'union sacrée et qui va conduire les Français à reprendre les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. C'est ça, la revanche.
Mais pour une personnalité telle que Forton, créateur des Pieds-Niclés,
alors, nous allons...
la revanche à prendre, ce n'était pas plutôt sur l'écrasement de la Commune de Paris.
Nous allons arriver à cela. Donc il y a un grand mouvement patriotique, et Barrès l'avait initié déjà, et bien d'autres. Donc la France se mobilise, et à ce moment-là, on voit se mobiliser tous des personnages comme Bécassine, par exemple.
Moins incongru.
Oui, moins incongru, mais enfin qui s'est mobilisé. C'est pas elle qui va faire beaucoup de mal aux Allemands en face, mais enfin bon, elle est mobilisée. Arsène Lupin lui-même va y aller de sa lutte contre le Kaiser et les Pieds-Niclés. Alors les Pieds-Niclés, il faut en venir à leur créateur, Louis Forton, qui était un Normand né à C. J'ai réussi à lui faire obtenir une rue dans sa ville natale, mais ça n'a pas été sans mal, car effectivement, personne ne le connaissait plus. Et bon, par ailleurs, ce n'était pas une très bonne réputation. Forton, créateur des Pieds-Niclés, est à l'image des Pieds-Niclés, un grand buveur de Clos Vougeot, un parieur sur les champs de course, un joyeux luron, amateur de plaisanterie, et qui ne travaille pas exagérément. Les bandes, les Pieds-Niclés arrivaient un peu au compte-gouttes, mais enfin, ils arrivaient. Forton est un pacifiste. Et la guerre le révulse, mais il est mobilisé. Il est mobilisé et donc son adjudant ou son sergent lui dit « Mon ami, il est déjà un peu âgé, Forton. Il est dans ce qu'on appelle la réserve. Enfin, il est... » Et donc, on lui dit « Mais pour vous occuper, eh bien, vous dessinez. Eh bien, vous dessinez les Pieds-Niclés. Eh bien, allez, vous allez servir la propagande française contre l'ennemi. Et donc, les Pieds-Niclés, vous allez les mettre au service de l'ennemi. Au service de la France, pardon, contre l'ennemi. Ça va de soi. » Vous voyez, ce lapsus est très révélateur, on ne sait jamais dans quel camp vont se retrouver les Pieds-Niclés. Et donc, l'éditeur des Patents, où paraissaient les aventures des Pieds-Niclés, Offenstadt, et les deux frères Offenstadt, sont d'origine juive allemande. Dans ce contexte de 1914, alors que l'affaire Dreyfus n'est pas loin, qu'il y a eu un antisémitisme virulent, et en plus d'être d'origine allemande, les frères Offenstadt sont forcés de donner des gages à l'opinion française de patriotisme. Et vous voyez, la conjonction se fait, les Pieds-Niclés vont être ainsi mobilisés. Qu'en pensent-ils eux-mêmes? On ne le sait pas, mais Forton, leur dessinateur et leur éditeur, les frères Offenstadt, vont les mettre au service de la patrie. Et voilà que nous entrons entre 1914 et 1918 dans une période très particulière de l'histoire des Pieds-Niclés. Ils sont des héros de la guerre, et ils sont félicités par les autorités et ils retournent contre l'ennemi les procédés qu'ils utilisaient avant pour rouler les bobos. Mais ils le font de façon plus violente. Il y a là un côté très violent qui n'est pas habituel dans les Pieds-Niclés, mais que justifie la guerre patriotique.
Oui, il y a notamment une planche qui est évidemment assez curieuse lorsqu'on la lit avec la sensibilité d'aujourd'hui, celle où nos trois Pieds-Niclés simulent une fraternisation, approchant des lignes allemandes avec... moult flacons et bouteilles de vin français, les incite à boire, à devenir ivres, ce qui ne manque pas d'arriver, et où ensuite, profitant de leur ivresse, de leur coma éthylique, s'emparant d'un canon, ils les réduisent littéralement en bouillie. C'est l'atmosphère de l'époque.
C'est l'atmosphère de l'époque. N'oubliez pas, la guerre de 14-18 a été une des plus violentes parce que ce n'est pas des bombes, c'est là le combat à l'arme blanche. Et ça, on le voit bien dans les pieds nickelés, car vous avez là un témoignage. Alors, sur la guerre de 14-18, infiniment plus intéressant que peut-être 60 témoignages d'anciens combattants. Parce que là, vous avez l'image qui est donnée de la guerre à l'arrière. C'est dessiné directement, ces dessins que vous allez voir dans l'album, ces dessins, ils sont lus à l'époque. Alors que les récits des combattants de la guerre 14-18 seront écrits après coup et seront connus après coup. Là, c'est en direct. Forton dessine une planche toutes les semaines, ou plusieurs planches, qui sont envoyées à l'épatant. Et souvent, elles sont d'ailleurs, il n'a pas eu le temps de les colorier parce qu'il n'a pas tous les moyens. Et donc, on a un petit peu triché dans la publication de ces planches, dans la mesure où on les a coloriées. Mais les pieds nickelés avant étaient coloriés. Donc là, c'est un moment, ils étaient destinés à être coloriés. Autant je m'élève lorsque je vois que l'on colorie des films en noir et blanc, que l'on fait des films de Laurel et Hardy qui ont toujours été en noir et blanc, des films en couleur. C'est absurde, ça détruit la vision exacte. Tandis que les pieds nickelés étaient prévus en couleur, mais quelquefois, il y a des fois où ils étaient en couleur, des fois, c'est en noir et blanc. Donc, vous avez là le témoignage le plus direct de la vision de la guerre à l'arrière par des enfants qui lisaient les patents. Et c'est ça qui est important, parce que ça va forger les mentalités. Et par rapport à la propagande officielle, par rapport... Là, c'est une vision qui a dû être soumise à la censure, mais on se dit, ils n'ont pas été très vigilants, parce que c'est extrêmement violent, et ça ne vous cache rien de la réalité de la guerre. Conclusion de cette période de la vie des pieds nickelés, 14-18, j'entends, il faut avouer que la fin nous laisse un peu consternés. Consternés parce que, eh bien, les pieds nickelés ont volé l'argent du Kaiser. Ils ont roulé les Allemands, ils les ont pillés, etc. Ils ont fait un butin important. Et que vont-ils faire de ce butin? S'acheter des caisses de Clos Vougeot, faire la nouba? Pas du tout. Ils reversent l'argent aux veuves de guerre. Là, c'est tout à coup Robin des Bois. Mais alors je rassure nos éditeurs qui penseraient que les pieds nickelés, ça s'arrête là, ça s'arrête en 1918. Non, ils vont continuer leurs espoirs jusqu'en 1934, date où Forton mourra du foie. Vraiment, il était dans un état pitoyable, tellement il
avait... C'était un pratiquant.
Oui, il avait ingurgité de vin et il finit sur un billard. Les pieds nickelés, enfin, de Forton s'arrête là, parce que les pieds nickelés vont continuer ensuite. Mais la grande période des pieds nickelés, celle que moi-même j'ai découverte enfant, par les autres je ne pouvais pas les connaître, c'est la grande époque des escroqueries qui confinent au génie. Alors, chers auditeurs, vous serez récompensés de nous avoir écoutés. Je vais vous révéler une escroquerie des pieds nickelés qui vous sera très utile. J'aurais pu vous proposer l'entrée gratuite dans un théâtre ou dans un cinéma. J'aurais pu vous proposer comment voyager en chemin de fer sans avoir de ticket. Je vais vous proposer comment faire un repas à tout casser et sortir du restaurant plus riche qu'on y est entré. Les pieds nickelés arrivent dans un grand restaurant. Nous sommes là maintenant dans les années 30. Les pieds nickelés arrivent dans un grand restaurant et ils demandent un salon particulier. Dans les grands restaurants, il y a des salons particuliers. Donc, ils s'installent dans ce salon et font un repas, mais vraiment à tout casser. Enfin, les plus grands crus, homard thermidor, caviar, enfin tout ce qu'il y a de plus cher, ils passent un repas inouï. À la fin du repas, Ribouledingue appuie sur un bouton, puisqu'ils sont dans un cabinet particulier, et le serveur apparaît, il lui demande la note. Le serveur arrive avec la note, les pieds nickelés l'assomment et le mettent avec la note sous la table. Puis, il laisse passer un quart d'heure, Ribouledingue appuie sur le bouton et, cette fois, paraît le patron. Et Ribouledingue lui dit, « Voilà, mon ami, je suis venu chez vous et j'ai changé à cette occasion de costume, et j'ai bêtement laissé mon chéquier dans ma veste. Alors, je suis arrivé chez vous avec mon portefeuille seulement, et dans mon portefeuille, une coupure d'1 million, c'est tout ce que j'avais, que j'ai donné à votre serveur. Cela fait maintenant un quart d'heure, enfin même 20 minutes, que j'attends la monnaie, et elle n'est toujours pas arrivée. Alors le patron cherche partout le serveur, il ne le trouve pas puisqu'il est avec, sous la note, avec la note sous la table. Et donc, considérant que cette grosse coupure représentait 3 années du salaire du serveur, il en conclut qu'il est parti avec la coupure. Et donc, il revient avec la monnaie du billet qui n'a jamais existé, 1 million, accompagné de cigares, accompagné de digestifs, et les pieds nickelés ressortent donc du restaurant, comme vous le voyez, plus riches qu'ils n'y sont entrés. Essayez, vous verrez, c'est très efficace.
Vous n'avez tout de même pas vous-même essayé ce genre de subterfuge.
Je ne peux pas, je suis de l'Académie des sciences morales et politiques.
À quelle occasion, Jean Tullard, avez-vous découvert les pieds nickelés, vous-même? Vous en parlez avec une telle passion que j'imagine que ce n'est pas seulement un sujet d'études académiques, précisément.
C'est une découverte enfant. On découvre plutôt les pieds nickelés quand même à 10, 11 ans, hein, c'est à 7, 8 ans. Non. Et on commence, ma génération a commencé par le journal de Mickey, car il faut dire que les pieds nickelés disparaissent un peu. Enfin, Forton meurt en 1934, les pieds nickelés perdent leur aura et l'épaton, qui était leur principal support, disparaît parce qu'apparaît la bande américaine, c'est-à-dire le journal de Mickey, Robinson, Hopla, etc., les grands journaux qui viennent d'Amérique avec des bandes dessinées beaucoup plus coloriées, infiniment mieux dessinées, et le journal de Mickey supplante l'épaton. Donc, ma génération commence avec Mickey, avec Félix le Chat, avec un personnage aujourd'hui oublié et qui avait une grande qualité, c'est qu'il n'y avait pas de bulle ni de texte. C'était le professeur Nimbus qui est resté, mais que personne ne lit aujourd'hui, qui avait un seul cheveu en forme de point d'interrogation. Et donc, on commence par là, et puis on arrive au pied nickelé à 10, 11 ans, quand on arrive dans une espèce de révolte, de volonté d'être anticonformiste, qu'on en a
assez. Ou de la transgression.
Oui, de la transgression. Alors qu'on vous dit, il faudrait lire Cœur Vaillant, il faudrait lire Tintin. Tintin est l'anti-pied nickelé. Il faut bien comprendre, Tintin est très moral. Tintin est recommandé à la porte des églises quand les pieds nickelés sont condamnés.
C'est édité par un journal catholique, d'ailleurs.
Oui, ah ben oui, c'est...
dont le rédacteur en chef est un prêtre.
Oui, donc Tintin offre toutes les garanties. Les pieds nickelés, c'est pour je pourrais encore vous citer comment, par exemple, ils ouvrent une baraque foraine. Et ça vous donne la méfiance ensuite d'aller dans une baraque foraine. Donc, ils ouvrent une baraque foraine et ils font de la publicité. Entrez, entrez, le spectacle est gratuit. Seule l'entrée est payante. Et donc, les gens se précipitent et dans la salle, ils voient un type tout à fait ordinaire sur une estrade. Alors, ils s'interrogent. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ils regardent le cartouche qui est au pied de l'estrade et ils lisent. Le type est là, ordinaire, sur son estrade. Ils lisent. « Ernest, le plus petit géant du monde. » Les types sont roulés. ils sont médecins. Alors, docteur, c'est Croquignol qui est ophtalmologiste. Docteur, j'ai la vue basse. Oh, aucun problème. Montée sur la tour Eiffel, elle sera haute. Voyez, alors ça mêle l'escroquerie ingénieuse à l'almanach Vermeau. Il est évident qu'il y a à boire et à manger dans les pieds nickelés, mais il y a plus à boire qu'à manger parce qu'ils boivent effectivement autant qu'ils mangent. Mais donc,
oui, on se rit des puissants, on se rit des gogos. Aujourd'hui, si les pieds nickelés, ils existent encore, mais dans un esprit différent, je pense, avec moins de gouailles, aujourd'hui, si les pieds nickelés revenaient pour de bon, quel serait le profil de leurs victimes ?
Ils seraient condamnés. Ils seraient condamnés pour racisme, pour mépris des handicapés, parce que tout y passe avec les pieds nickelés. Ils seraient...
Pour incitation à la débauche.
Oui, surtout à l'alcoolisme, ou à la cigarette, aux cigares, etc. Bref, ils sont hostile à à tous les conformismes. Et donc, ils disparaissent, les vrais, ceux de Forton, disparaissent en 1934. Alors, le dessin est continué dans un bon esprit encore par Lacroix, et puis par Bader, ça continue un peu, et puis 1939, là, ils ne sont pas mobilisés. Dommage, parce que sinon, ils auraient inversé le cours de la guerre. Ils ne sont plus mobilisés, Forton étant mort, et les frères von Stade étant déportés. Donc, c'est fini. Là, le règne de Vichy, c'est le règne de la vertu. Donc, pas question de publier les pieds nickelés entre 1940 et 1944. Et ils reviennent ensuite. Et la plupart des gens qui nous écoutent ont connu d'autres pieds nickelés que ceux dont je vous ai parlé jusqu'ici. Les pieds nickelés sont repris par un dessinateur de qualité qui était un dessinateur surtout sportif, qui avait l'habitude d'illustrer le Tour de France dans des journaux style L'Équipe, L'Autojournal et autres, et donc qui les reprend, mais la violence, le non-conformisme est beaucoup plus atténué. Les pieds nickelés deviennent quelquefois charitables, deviennent quelquefois modérés. Quand ils se mêlent de politique, ça ne va jamais très loin, alors que chez Forton, quand ils vont chez le président de la République, ils volent tous les vases de Sèvres. Ça montre qu'ils n'ont pas très bon goût quand même, peut-être, mais enfin, les vases de Sèvres faisaient certainement impression sur eux. En tout cas, c'est complètement édulcoré. C'est bon, il y a de bon, le dessin est meilleur, les histoires sont amusantes, il y a même les pieds nickelés académiciens, voyez, mais bon, on imagine ce que Forton aurait fait, les bases de l'Institut où nous sommes auraient tremblé immédiatement avec une vision de l'Académie et des Académies par Forton. Et puis, Pelos, qui a publié énormément d'albums. Et donc, tout le monde connaît les pieds nickelés à travers plutôt Pelos qu'à travers Forton. Et tout mon travail a été de rappeler qu'avant Pelos, il y avait Forton. Et c'est la raison pour laquelle j'avais publié en 1908, chez Armand Collin, un livre sur les pieds nickelés. C'était le 100e anniversaire de leur apparition. Donc, les pieds nickelés avec Pelos, ça fait 10. Et puis, Pelos mort, ils disparaissent. Et ils sont en train, actuellement, de reparaître. Si vous vous promenez dans les boutiques de bande dessinée, et il faut dire que le marché de la bande dessinée se porte apparemment très bien, puisque c'est fou le nombre d'albums qui paraissent et le succès de ces albums, eh bien, plusieurs dessinateurs ont ressuscité les pieds nickelés et se sont efforcés, à juste titre d'ailleurs, sinon ça n'aurait pas eu de sens, se sont efforcés de les remettre dans le contexte de l'époque. Il y a même un album des pieds nickelés où ils rencontrent M. Tapie et le président Sarkozy. Je pense que le choix de ces deux personnages n'est pas innocent. Ils ne rencontrent jamais Mère Teresa.
En revanche, cette renaissance est peut-être l'illustration ou un symptôme ou un indice qui nous permet ou qui nous incite à dresser des parallèles entre l'époque de la naissance des pieds nickelés et la nôtre. Comment faites-vous ?
Oui, il y a, si vous voulez, quand les pieds nickelés paraissent, et c'est encore une fois les grandes escroqueries des bandes Bayonne, il y a tous les scandales parlementaires et autres, et les pieds nickelés en profitent. Par exemple, ils utilisent le monde piété. Et ils donnent de l'argent pour des objets sans intérêt, etc. Donc, c'est l'affaire des bons de Bayonne. Enfin, c'est l'affaire Stavisky que vous trouvez là. Il y a toute une série d'escroqueries que, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez retrouver. Il y a des magouilleurs, ils font des escroqueries dans l'immobilier. Bon, vous le retrouvez aujourd'hui. Ça reste très moderne. Mais, permettez-moi alors, puisque j'ai la chance d'avoir le micro de Canal Académie, d'élever une protestation. Oui, chers auditeurs, on parle beaucoup des pieds nickelés aujourd'hui. Et on en parle de façon tout à fait inexacte et incorrecte. Si vous ouvrez votre journal, si vous écoutez une autre radio que Canal Académie, et vous auriez tort, si vous écoutez donc les nouvelles, vous apprendrez que des braqueurs ont raté leur coup. Et que dit le journaliste ? Une bande de pieds nickelés. Eh bien non, les pieds nickelés ne sont pas des bras cassés. Les pieds nickelés ne sont pas des bras cassés. Les pieds nickelés sont des escrocs de génie. Et les présenter comme des losers, les présenter comme des perdants, les présenter comme des gens qui ratent leur coup, c'est tout à fait inexact. C'est un contresens, comme de parler de la Bérézina. La Bérézina n'a jamais été, je l'ai dit à ce micro, elle n'a jamais été une défaite française. La Bérézina, au contraire, sont les Russes qui ont échoué à encercler Napoléon, à l'acculer sur la Bérézina, mais il échappe grâce aux pontonniers, et donc il n'y a pas de défaite française à la Bérézina, sauf qu'il y a un certain nombre de prisonniers, ceux qui, les traînards, n'ont pas réussi à franchir la Bérézina à temps. De même, on dit une bande de Zozo. Eh bien, Zozo, qui apparaît dans la bande dessinée un petit peu après Les Pieds Nickelés, Zozo de Bianchi, c'est un singe très intelligent. Zozo, non, c'est... Zozo est un personnage très malin. Vous voyez les contresens que l'on fait sur les noms. Pieds nickelés, bon, on considère pieds nickelés égale bras cassés. Et donc, n'hésitez pas, chers lecteurs, chaque fois que vous relevez dans la presse une bande de pieds nickelés, de protester et de dire vous faites un contresens total.
Pour revenir à ce parallèle, si les pieds nickelés revenaient aujourd'hui, à votre avis, quel serait le profil de leur cible ? Puisque finalement, ils sont subversifs par leur liberté totale. Comment exprimeraient-ils aujourd'hui cette liberté et cette explosion de liberté qui en devient subversive à force d'être tout simplement jubilatoire ?
Alors, il faut bien le dire, les pieds nickelés s'attaquent, quand on lit les bandes dessinées, plutôt aux classes moyennes. Ces classes moyennes, dont on vous dit aujourd'hui qu'elles sont écrasées par une fiscalité oppressive, c'est la cible des pieds nickelés. Ce sont les gens qui font confiance. Les classes moyennes répondent à tous les idéaux. Ce sont les classes moyennes qui ont fourni les combattants des guerres. Ce sont les classes moyennes qui paient les impôts. Ce sont les classes moyennes qui acceptent des sacrifices. Ce sont les classes moyennes qui donnent lorsqu'il y a des collectes ou autres. Eh bien, ce sont ces classes moyennes qu'attaquent effectivement et que attaqueraient encore aujourd'hui les pieds nickelés parce que c'est là qu'est l'argent. Les pauvres, on ne va pas les voler. Mais les riches, les trop riches, ils échappent. Comment les avoir ? Donc, vous voyez, ce sont des commerçants, des gens qui investissent à la bourse, des gens qui acceptent d'aller à la Comédie-Française voir des spectacles parce qu'on leur a dit que c'était bien. Les naïfs. Un escroc, il ne peut vivre que de naïfs. Alors, chercher les naïfs aujourd'hui, ce sont ceux qui croient encore à certaines vertus que les autres ont depuis longtemps délaissé.
Je vais finir par me demander si je souhaite leur retour, finalement, ces pieds nickelés. Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite découvrir les pieds nickelés ? Par quel album commencer ? Parce qu'ils sont réédités, je crois, sous forme d'album. Par lequel commencer ? Faut-il faire du chronologique ou y en a-t-il un plus particulièrement qui résume leur âme et leur manière d'être ?
Alors, dans les pieds nickelés n'ont été publiés constamment que par l'épatant. Donc, ce sont des planches. Mais il y a eu...
Des recueils.
Et donc, ce sont les recueils des années 30, ceux à partir de encore des exploits sensationnels ou attractions sensationnelles qu'il faut lire. Ce sont les albums apparus bien après Les Pieds Nickelés s'en vont en guerre. Les Pieds Nickelés s'en vont en guerre, il faut les regarder comme un témoignage sur la guerre de 14-18, hein, point c'est tout. Et puis leur procédé. Mais ce ne sont pas les vrais pieds nickelés. Là, ils sont d'une très grande moralité. Ce sont des albums comme attractions sensationnelles qui actuellement ne sont pas tous réédités, qui reprenaient les planches de l'épatant, mais que l'on trouve dans les marchands de bandes dessinées d'occasion, en attendant une réédition problématique, car aujourd'hui, il faut bien le dire, les pieds nickelés, il n'y a pas de bulle, ce sont des bandes de texte sous l'image, et ils nécessitent un certain effort. Lorsque vous apprenez que le général russe corrompu qu'eux-mêmes vont rouler, s'appelle le général Toubenef. Eh bien, il faut quand même faire l'effort.
Jusque-là, ça va. En revanche, l'argot parisien peut effectivement déstabiliser
Déstabiliser
un jeune public. Toutefois, eh bien, écoutez, je vais conclure cette émission en vous remerciant chaudement de tous vos éclairages, en recommandant toutefois chaudement la lecture de ce recueil, Les pieds nickelés s'en vont en guerre, avec une préface de Jean Tullard que nous recevions, éditée à la librairie Vuibert. C'est une excellente façon, comme vous l'avez dit, d'aborder les commémorations du centenaire de la guerre 14-18, plonger dans cet univers à la fois si proche et si lointain, mesurer l'évolution de la sensibilité et aussi, malgré tout, une certaine permanence de l'esprit français, de cette débrouillardise, de cette gouaille, cette volonté, cet esprit frondeur qui persiste à travers les siècles. Merci Jean Tullard.